Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Jean de La Fontaine disait que la peste est un mal qui répand la terreur. C'est une citation que notre invité du jour a repris dans son ouvrage consacré à l'histoire de la peste de l'époque antique jusqu'à nos jours. Jean Vitaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes notre chroniqueur gastronomique. Vous êtes gastro-entérologue et vous vous intéressez depuis de nombreuses années à la peste et à son histoire. C'est donc tout naturellement que vous publiez Histoire de la peste aux presses universitaires de France, publié en 2010. Alors la peste est une maladie infectieuse qui suscite toujours la curiosité des médecins et des historiens, car si on sait depuis Yersin en 1897 que l'agent de la peste est provoqué par la puce du rat, puce porteuse de la maladie, on ne sait en revanche toujours pas comment cette zoonose émerge et comment elle s'éteint, Jean Vitaud. Car à l'époque, toutes les pandémies disparaissent parfois 300 ans après le premier foyer de contagion, et cela sans l'aide de la médecine. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'explications ?
On a des bribes d'explications. Alors, il faut d'abord savoir que la première épidémie historique de peste s'est produite au VIe siècle de notre ère, dite peste de Justinien, qu'elle s'est poursuivie jusque vers 740, puis qu'il y a eu, au moins en Europe, un intervalle libre qui a duré jusqu'en 1347, qui, cette peste noire, s'est multipliée tous les 10 ou 20 ans, jusqu'en 1720, année de la peste de Marseille. Depuis, elle a disparu d'Europe, mais a poursuivi en Asie, où la troisième pandémie s'est apparue dans les années 1880-1920, avec 20 millions de morts en Inde et quelques morts à Aubervilliers. Alors pourquoi elle apparaît et pourquoi elle disparaît ? Eh bien, la peste est une maladie compliquée où il y a à la fois de nombreux acteurs. Il y a le germe de la peste, Yersinia pestis, il y a la puce du rat, il y a le rat. Alors pourquoi la peste a disparu en Europe depuis le XVIIIe siècle ? Probablement parce que le rat a changé, c'est-à-dire Rattus rattus, le rat noir, a été complètement supplanté et éliminé par Rattus norvegicus, notre surmulot ou rat d'égout actuel, qui porte bien moins la peste que son illustre prédécesseur.
Et d'où viennent ces rats ?
Ces rats sont tous arrivés d'Asie. Le rat est un animal asiatique qui vient de l'Asie centrale et on a pu reconstituer l'histoire des rats par des études de paléozoologie. On s'est rendu compte que le rat était peu fréquent, voire très rare, dans l'Empire romain classique, au point même qu'il n'y a pas de nom latin pour rat. Rattus, c'est du latin, mais c'est du latin de cuisine médiévale, alors que le seul mot que les latins connaissaient, c'est mus, qui veut dire, qui était à la fois générique pour souris, mulot, musaraigne. Il faut dire que les Romains n'étaient pas de grands amateurs d'histoire naturelle, sauf Pline l'Ancien. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait très peu à l'époque romaine classique, que le rat noir s'est répandu progressivement à l'époque de Justinien, jusqu'à la fin de l'Empire romain. Et à ce moment-là, les épidémies de peste ne suivent que les voies de communication où il y avait du rat noir. Et puis, il explose, peut-être en raison de l'optimum climatique du Moyen-Âge, et devient omniprésent jusqu'au XIIIe siècle, ce qui explique que l'épidémie de peste noire touche toute l'Europe sans n'épargner aucun endroit.
Alors on va y revenir, cette peste noire qui ensuite s'étend en 1720 jusqu'à Marseille. Auparavant, quelques symptômes de la peste, quels sont-ils ?
Il y a deux formes de peste. Il y a la plus fréquente qui est la peste bubonique. Bubon, c'était le nom que l'on donnait à l'adénite, c'est-à-dire à l'inflammation du ganglion, de l'aine ou de l'épaule, ou parfois du cou, de la base du cou, et qui correspond en fait, suite à la piqûre par la puce du rat infecté, à remonter les voies lymphatiques, s'arrêter à ce niveau-là, et sans qu'elle puisse s'accompagner de signes généraux, de la fièvre, de la déshydratation, des délires. Et comme dit Guy de Chauliac, médecin des papes à Avignon, en 1348, on en mourait le plus souvent en 5 à 7 jours, mais on pouvait en survivre. Et puis il y a la deuxième forme de peste, la plus terrifiante, qui a peut-être joué un grand rôle lors de la première poussée de peste noire, qui est la peste pulmonaire, qui se transmet de façon interhumaine, un peu comme la grippe, par des gouttelettes de salive, et qui, elle, tue irrémédiablement en 3 jours, sauf en présence d'antibiotiques modernes, mais même encore, là, la mortalité reste élevée.
Alors venons-en à l'aspect historique. Vous citiez la peste au VIe siècle à Byzance, sous Justinien. Et puis parallèlement, au même moment, il y a la même chose en Chine et puis également en Palestine. Alors est-ce que ces épidémies suivent les routes commerciales ?
Alors, ces épidémies suivent sans aucun doute les routes commerciales. Le foyer initial de la peste est probablement l'Asie centrale au sens large, c'est-à-dire pour revenir à ce qu'on dirait, je dirais, la région de Samarcande entre la Caspienne et l'Inde. Et alors, ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'il y a eu une grande épidémie de peste, elle a commencé à se répandre d'Asie centrale vers la Chine et puis après d'Asie centrale vers l'Europe, probablement parce que la Chine était plus proche de l'Asie centrale que l'Europe de l'Asie centrale. Mais elle a à l'évidence suivi les routes de la soie. Et ce que l'on peut dire, c'est que pour la peste de Justinien, elle a d'abord arrivé en Égypte, à Péluse, et puis de là, elle s'est répandue sur tout le pourtour méditerranéen. Et pour la peste noire, son arrivée en Europe est extraordinaire parce que c'est quand même un des rares exemples de guerre bactériologique connue, puisque un camp de la Horde d'Or, Janisberg, qui encerclait, assiégeait le comptoir de Kaffa, qui s'appelle maintenant Alexeïev en Ukraine, a réussi à la transmettre au monde antique de l'époque complètement connu, simplement parce que, mauvais perdant, la peste s'étant déclarée dans son camp, il a envoyé les cadavres des pesteux par des catapultes dans la cité. Les Génois ont pris peur, ils sont partis dans leur bateau et sur tout le long de leur trajet, ils ont semé la peste, d'abord à Constantinople, puis à Corfou, puis à Gênes, puis à Marseille, puis au Baléares et à Barcelone.
Donc c'est la raison pour laquelle vous parlez de guerre bactériologique, puisque on a jeté ces cadavres pestiférés dans cette ville.
Mais on a fait mieux depuis.
Oui. Alors, vous avez fait un bond, puisqu'on est passé du VIe siècle à 1347, hein, oui, qui est la date à laquelle on dit que la peste noire démarre. Pourquoi on dit noire ? Pourquoi on parle de peste noire ?
La peste noire, c'est probablement pas parce que les malades étaient noirs comme du charbon, encore que certains parlent de charbon pour des lésions cutanées de la peste. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est probablement le mot de peste noire est un langage qui existait à l'époque, mais qui a été popularisé par des auteurs allemands du XIXe siècle. Mais ce qui est sûr, c'est que ça voulait dire atrapesta, c'est-à-dire la peste noire, parce qu'elle remplissait d'horreur et d'effroi.
Alors, vous le disiez que, effectivement, ces foyers de peste démarraient par l'Asie et se développaient, oui, ensuite vers l'Europe et tout autour. Là, pour cette peste noire, c'est encore le cas, puisque le foyer démarre en Chine et provoque 13 millions de morts.
Oui, alors, la population de la Chine a été frappée pendant 2 siècles par la peste noire et la population de l'Europe de façon redoutable, puisqu'on estime qu'entre 30 et 50% de la population européenne est mort de la peste dans les 50 ans qui ont suivi son introduction.
Vous parlez de 42 millions de morts,
oui,
en Europe.
C'est le chiffre qui a été cité par les recensements faits par le pape d'Avignon, qui était peut-être Clément VI à l'époque.
Alors vous parlez de l'Europe, donc c'est la France qui est touchée, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie. Un peu plus curieux, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande et même l'Islande, hein, c'est très éloigné. Mmh. Et puis, curieusement, Milan et Bruges ne sont pas touchés par ces foyers d'épidémie.
Ils ne sont pas touchés pendant la première épidémie de peste. Mais comme la peste revenait tous les 20 ou 10 ans ou 30 ans, ils ont été touchés lors des épisodes suivants. On dit aussi que le Béarn et la Pologne avaient été peu touchés la première fois, mais ont été encore plus durement touchés lors des rechutes ultérieures.
Alors, j'imagine que les conséquences démographiques et économiques sont importantes avec tous ces morts.
On est revenu au niveau de population de 1347, seulement après 1650 en Europe. Mais il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'une telle hécatombe n'a absolument pas entraîné de décadence au sens propre du terme, parce que la fin du Moyen-Âge et les débuts de la Renaissance sont quand même une époque extraordinaire d'un point de vue fermentation intellectuelle. Par contre, il est vraisemblable qu'une bonne partie du monde musulman et rentrait dans une phase de décadence pendant plusieurs siècles, sauf l'Empire ottoman.
Alors, vous parlez quand même dans votre ouvrage, pour ce qui est de la peste noire, donc suite à cette peste noire, des terres en friche, moins de population pour faire le pain, des bouchers, moins de personnel pour travailler à ces métiers-là, ce qui provoque des disettes, une augmentation de la délinquance, mais aussi parallèlement des salaires qui augmentent parce que les personnels est moins nombreux.
Absolument. Alors, il y a eu une grosse redistribution des richesses, ne serait-ce que, par exemple, pour en donner une idée, à Florence, la peste tue 50% de la population, tue pas mal de familles nobles in extenso, et donc des familles secondaires prennent le pouvoir, ce qui explique par exemple l'ascension des Médicis. Il se produit aussi des phénomènes étranges, parce qu'il est rare qu'une maladie infectieuse tue 100% de la population, et un certain nombre de ce qu'on appelait des crocheteurs ou des corbeaux, qui se faisaient payer une pièce d'or par cadavre mis dans les charrois pour les emmener dans les cimetières, peu, mais un certain nombre ont survécu et sont devenus fort riches. Et par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que comme il y avait une désorganisation complète des services, il y a eu également beaucoup de vols et de situations qui ont été beaucoup mieux décrites d'ailleurs pour les épidémies ultérieures, que ce soit à Marseille ou la Grande Peste de Londres dans le journal de l'année de la peste de Defoe.
Et alors, on accuse, il faut bien trouver des responsables à cette peste. On accuse les Juifs, on accuse certaines personnes de sorcellerie. Quel est l'état d'esprit ?
Alors, on a accusé les Juifs à peu près immédiatement, à peu près partout, et notamment alors en Alsace, où on dit qu'on aurait brûlé 2000 Juifs, à Mayence, et également à Barcelone, où la population déchaînée a pris d'assaut le barrio, le quartier juif. Également en Provence, enfin. Et alors, le problème, c'est que le seul qui a pris la défense des Juifs, c'est le pape Clément VI, qui a frappé d'excommunication tous ceux qui s'en prendraient aux Juifs, probablement parce qu'il était entouré d'un milieu lettré qui avait compris que ce n'était pas un empoisonnement, mais quelque chose d'autre.
Et la religion, par ailleurs, alors, s'emprunte d'un certain apocalypse. Hein.
La religion, il y a deux phénomènes qui jouent. Le premier, c'est que les ordres religieux ont payé un lourd tribut à la peste. On estime que 60% des clercs sont morts en Angleterre du fait de la peste noire. Et les 60% de ces clercs qui sont morts de la peste noire, il a fallu les remplacer. Alors, l'Église avait le choix entre deux solutions, soit attendre suffisamment longtemps pour envoyer des clercs bien formés, soit ordonner à la va-vite, et c'est le deuxième choix qui a été fait. Et c'est comme ça que l'on explique un certain nombre de dérives qui ne s'étaient pas produites avant, comme notamment la chasse aux sorcières, parce qu'un certain nombre de croyances populaires se sont retrouvées dans le clergé, et c'est pour ça ce qui explique, avec en plus, je dirais, l'antiféminisme qui apparaissait depuis un petit moment, cet épisode de la chasse aux sorcières qui est tout à fait extraordinaire. D'un autre côté, le clergé, n'ayant pas su répondre à cette menace de Dieu, en a poussé d'autres à la contestation, et notamment, devant la richesse de l'Église, ça a été le cas de Wycliffe ou de Jean Hus. Et on peut dire que quelque part, la peste noire a peut-être semé les graines de la réforme.
Oui, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage. Vous parlez des flagellants. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Les flagellants, c'est une réponse d'excité. Ça avait existé avant la peste noire. Mais ils se répandaient de ville en ville et se flagellaient avec des clous cloutés de fer pendant 33 jours et demi, par allusion à la durée de vie du Christ. 33 ans et demi, et susciter des aumônes, chanter des cantiques déplorables, disait Frossard, et contester l'autorité de l'Église, qui donc les a vigoureusement combattus pour cette raison, parce qu'en particulier, ils entendaient que le baptême par le sang qu'ils proposaient permettrait seul de sauver l'humanité, contrairement au baptême par l'eau de l'Église, ce qui n'a pas été bien vu. Ils ont donc été condamnés vigoureusement par l'Église, par le roi de France également.
On sent bien ce questionnement, hein, cette remise en question de la société.
C'est probablement l'origine du diable omniprésent, de l'apocalypse qui devient extrêmement populaire alors qu'elle l'était beaucoup moins auparavant.
Et de ces images morbides que l'on entretient au Moyen-Âge.
Eh bien, c'est-à-dire qu'on voit bien la différence quand on voit les gisants. Vous avez les gisants du XIIIe, XIVe siècle, où vous avez le chevalier en armure, avec ses armes, son écu, et qui habituellement, dont les pieds reposent sur un petit chien, entouré de sa jambe d'âme dans ses beaux atours aussi. Et puis vous voyez la transformation au XVe siècle, d'un squelette grimaçant dans lequel grouillent les vers qui tombent en charpie et qui montrent bien l'idée de la mort omniprésente, qui était déjà le cas auparavant, mais jamais, il n'y avait jamais eu de catastrophe de l'importance de la peste noire.
Alors on avance un peu, on arrive à l'époque moderne.
Oui.
C'est en 1720 la peste de Marseille. Qui là, c'est assez curieux, la peste de Marseille est issue du non-respect de la quarantaine du bateau.
Ah oui, alors, là, il est clair que, et ça, les contemporains l'ont bien vu, je me suis plongé dans les livres des contemporains, et c'est assez extraordinaire. En fait, le bateau a été contaminé de la peste soit à Chypre, soit sur la côte du Liban, à Saïda, et il y a eu quand même une dizaine de morts entre la dernière escale à Chypre, quand il est arrivé à Marseille. Et ils ont fait des faux en écriture pour que les patentes, comme on appelait, au lieu d'être saines, ont été trafiquées. Et tout ça parce que ce navire contenait une cargaison fort importante de soieries et de cotonnades qui devait être arrivée à temps pour la foire de Beaucaire. Et là où l'histoire devient encore plus cocasse, c'est que la cargaison appartenait en partie à un des échevins de Marseille qui s'appelait Jean-Baptiste Estel. Alors en plus, non seulement ils n'ont pas respecté la quarantaine parce qu'ils auraient dû être mis à l'île de la Jarre, ce qui n'a pas été fait d'emblée, mais en plus ils se sont débrouillés pour faire débarquer les soieries dans les infirmeries. Et alors c'est là où ça devient étonnant. On ne sait pas s'ils ont choisi des médecins malhonnêtes, stipendiés ou simplement incompétents, mais il s'en est fallu d'une bonne quinzaine de jours pour qu'ils parlent de fièvre pestilentielle, mais ni la peste, et c'est finalement le médecin des galères qui va faire le diagnostic de la peste et donc semer la terreur. Mais le mal était déjà fait parce que la peste s'était répandue dans Marseille.
Mais cette peste durera moins longtemps que la peste noire qui aura duré 300 ans.
Elle durera moins longtemps que la peste noire qui a duré. Elle a duré en fait à peu près un an. Et alors le problème de cette peste, c'est qu'elle a remonté globalement jusque dans le Gévaudan et jusqu'à Orange. On a fait un mur de la peste entre le Comtat et la Provence, gardé militairement. Mais c'est probablement pas ça qui a arrêté la peste d'une part. Mais c'est peut-être simplement qu'on est tombé sans le savoir et sans qu'on puisse le savoir de nos jours sur la frontière entre des populations de rats noirs purs et des populations de surmulots.
Alors, au XIXe siècle, c'est le siècle de l'hygiène, donc on n'entend plus vraiment parler de peste, en tout cas en Europe. Mais la peste, elle revient à Paris et à Aubervilliers en 1920. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote ?
Alors, le problème, on n'en entend plus tellement parler en Europe, c'est vrai. Mais par contre, la peste existait en Russie, en Inde, en Chine, et c'est une révolte des Ouïghours qui entraîne des millions de morts, parce que les révoltes chinoises, c'est quand même habituellement assez sanglant. Et à la suite de ça, la peste se développe. Elle passe d'abord à Canton, puis ensuite elle va à Hong Kong, et enfin elle atterrira à Bombay. Elle aura fait quand même au moins 20 millions de morts en 40 ans. Et alors, cette peste, pour commencer, les autorités françaises s'en sont d'emblée méfiées, parce que l'Indochine était proche de la Chine, et c'est comme ça qu'elles ont envoyé un jeune médecin qui était pastorien, Alexandre Yersin, qui découvrira la peste à Hong Kong. Mais cette peste de Bombay, là encore parce que la quarantaine n'est pas bien respectée, part de Bombay et par les voies maritimes se répand dans le monde entier. Elle arrive à Madagascar, elle arrive en Afrique, elle arrive en Afrique du Sud, elle arrive à Porto, elle arrive à Hawaï, puis à San Francisco. Et en Europe du Nord, elle arrive à Glasgow et elle arrive à Aubervilliers. À Aubervilliers, dit-on, par une barge de charbon venue de Londres. Mais alors, ce qui est frappant, c'est que ça fait des épidémies extrêmement limitées, qu'on avait accusé les veillées mortuaires. Ce qui est sûr, c'est que la peste du rat noir transmet fort bien la maladie, que la peste du surmulot le transmet beaucoup moins bien, et que la peste de l'homme n'est pas du tout douée pour transporter la maladie. Et puis alors en plus, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que la peste du rat n'est pas la peste de l'homme. La peste du rat est très septicémique, c'est pour ça que les puces le transmettent, mais pas la peste de l'homme. Et donc, cette peste s'est produite dans des quartiers, effectivement, il y avait une promiscuité avec des rats, et on l'a appelée la peste des chiffonniers. Et dans la majorité des cas où on l'a trouvée, on a pu trouver la promiscuité avec des rats morts, notamment, et notamment dans les caves, il y a des gens qui ont pris des rats et qui ont contracté la peste, donc piqué par une puce du rat qui cherchait un hôte après la mort du précédent. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a eu des... C'est passé relativement inaperçu à l'époque. Parce que, d'une part, il y avait eu la guerre de 14, juste avant, et deuxièmement, c'était en pleine épidémie de grippe espagnole.
Et puis, le nombre de morts n'était pas non plus le même que celui
pas le même
que vous évoquez depuis le début de l'émission.
Mais la ville de Paris et le ministère de la Santé ont pris des mesures drastiques. Ils ont fait des chasses aux rats gigantesques, ils ont regardé. Et en fait, s'il y a eu fort peu de cas, c'est que le parasitisme des rats était faible, environ un rat atteint pour 400 personnes, et que finalement, eh bien, si l'Europe actuellement est protégée de la peste, c'est à cause du surmulot et non pas tellement ni à cause de l'hygiène ni de la médecine.
Alors aujourd'hui, il demeure encore des foyers ponctuels hein, de peste à Madagascar, en Californie aussi, je crois.
Et en Californie, il y en a parce que, arrivé en 1900 en Californie, avec des rats noirs, elle s'est aussi transmise à certains animaux sauvages, et notamment des écureuils et des chiens de prairie. Et il y a une vingtaine d'États de l'Ouest américain où il y a des cas de peste.
Et puis aussi en Afrique.
Alors Madagascar est un cas terrifiant parce que c'est là où il y a eu les plus gros contingents de peste. Et depuis 1898, il y en a toujours à Madagascar, moins qu'autrefois. Mais le problème, c'est qu'actuellement, avec les troubles endémiques de cette région, il n'est pas très facile de savoir. Mais c'est là que la première vaccination avait été mise en œuvre par les pastoriens dans les années 30, parce qu'il y avait quand même plus de 3000 morts par an à l'époque à Madagascar.
Eh bien, je vous remercie, Jean Vitaux. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Histoire de la peste » publié au PUF en 2010, où nos éditeurs pourront tout savoir sur l'histoire de la peste
Merci.
Du VIe siècle jusqu'à nos jours. Merci et à bientôt. Au revoir.